Alors juste le temps que les questions se forment, je pense que là, ce qui se passe à Gaza, ce qui s'est passé à Gaza là depuis fin décembre, ça démontre une fois de plus que les dirigeants israéliens n'ont absolument aucune proposition politique à faire. La seule chose qu'ils veulent, c'est... La seule chose qu'ils sont capables de prendre comme décision, c'est des décisions unilatérales. La seule chose qu'ils veulent, c'est des frontières hermétiques, aussi bien autour des pays qu'à l'intérieur des pays. Je crois que, enfin, en regardant ce qui se passait à Gaza, là, vraiment, on pouvait se dire ils sont vraiment fous. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème, quoi. Je pense qu'ils sont, entre autres, fous de leur passé. Et ils sont fous de ça, là. Je pense que la société israélienne est une société, enfin, de ce qu'on entend dire, quoi. C'est une société très violente. Je pense que ce sont des gens qui... Alors, je parle des gens globalement. Bien sûr, il n'y a jamais des gens globalement. Il y a toujours des personnes. Et en particulier, il y a des associations israéliennes qui travaillent contre l'occupation et pour la documentation de tous ces villages détruits. Mais sinon, globalement, c'est une société... enfin, je dirais, c'est facile de dire ça maintenant. Aujourd'hui, il y a 100 ans, on ne pouvait pas dire ça aussi facilement. Mais c'est une société qui a été fabriquée de toutes pièces, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé qu'ils allaient faire un juif nouveau, comme des gens avaient décidé de faire un homme nouveau avec le communisme. Et ce sont des gens qui, les juifs israéliens, en tout cas la plupart de ceux qui sont en Israël, il y en a qui habitaient déjà en Palestine depuis longtemps, mais la plupart sont des gens qui viennent de partout. C'est-à-dire, enfin, de mon point de vue, là je parle que de mon point de vue, hein, ça n'existe pas le peuple juif, ça existait des communautés juives dans des régions culturelles et géographiques extrêmement différentes, et des juifs polonais, des juifs irakiens, c'est pas des gens qui ont les mêmes manières de vivre, c'est pas des gens... qui sont sans transition aucune, susceptibles de vivre, de former une société un peu équilibrée, je dirais. Bon, j'espère que ce que je dis, c'est pas trop caricatural, je suis un peu choquée par le film, là, mais... il faut... Enfin, il y a... Pour former une société, pour qu'une société soit un peu, je sais pas, stable et raisonnable... Il faut toute une histoire derrière. Là, ce n'est pas une histoire qu'ils ont. Des gens ont été mis ensemble venant de partout, avec tous les racismes qu'il y a à l'intérieur de la société juive israélienne. C'est une société qui ne tient... Enfin, en tout cas, il y a des dirigeants politiques israéliens qui pensent que cette société ne peut tenir que s'il y a en permanence un ennemi extérieur. Et donc, moi, je crois qu'ils sont vraiment fous et je crois que absolument l'Europe doit intervenir. C'est inadmissible, la lâcheté de l'Europe. Alors là, on a vu, c'est un film sur 48. Bon, là, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser la parole, mais bon, l'établissement de l'État d'Israël, ça n'a pas commencé en 48. En 48, il ne pouvait pas du jour au lendemain y avoir un pays qui fonctionnait comme ça. L'établissement de ce pays a commencé au début du XXe siècle. Et bien sûr qu'il y avait... Alors, chez les Juifs, il y avait plein de Juifs qui n'étaient pas sionistes, mais cela, on n'a pas voulu en entendre parler en Europe. Et chez les juifs sionistes, il y avait bien sûr plein de courants différents. Il y a toujours plein de courants différents chez les humains. Mais depuis le début du XXe siècle, en particulier depuis 1920, dans le mouvement sioniste, ce sont ceux qui ont dit « Nous devons nous établir ici, nous devons créer un État. Pour créer un État, il faut chasser les gens qui y sont déjà. » Il y avait d'autres gens dans les mouvements sionistes qui disaient « Attention, il y a des gens qui vivent ici, il faut qu'on voit si on peut s'entendre avec eux, si on ne peut pas s'entendre avec eux, il faut partir. » Ces gens-là ont été écartés de toute prise de décision. Et je pense que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est cette situation-là. Et voilà.
Merci. Il y a énormément de questions et peut-être des questions de base, mais j'ai eu une petite question. Entre la dernière incursion de l'armée israélienne au Liban et ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une énorme modification de l'attitude des Israéliens eux-mêmes. Parce que la dernière fois, il y avait quand même énormément de personnes qui protestaient. Et ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis, on avait des sites « Not in my name » qui ont perdu énormément du pouvoir qu'ils avaient. Donc je suis assez étonnée par ce très rapide changement. Mais il faudrait peut-être poser la question aux gens qui sont en Israël aujourd'hui aussi.
Alors, Jean-Pierre peut-être va vouloir répondre aussi. Vous parlez de la guerre du Liban de 80 ou de la dernière incursion en 2006. Je pense que c'est très difficile de savoir le nombre de gens qui protestent. Et c'est très difficile de le savoir au moment où ça se passe. Et des fois, on le sait un peu plus tard. Je pense que quand on va sur Internet, c'est extrêmement facile de trouver des sites de juifs qui disent ce qui se fait, c'est pas en mon nom, tout ça. Après, la visibilité, c'est une autre question. Sur ce point, moi, je voudrais dire que le problème de la visibilité, c'est justement notre problème. Une association comme l'UJFP, si nous avons créé une association, cette association a été créée, c'est bien parce que nous pensons qu'il faut que nous devenions visibles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que le fait d'être juif, ça reste dans le privé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non, il faut le mettre dans l'espace public, mais ça, chacun a choisi. Mais surtout, aussi, qu'est-ce que les non-juifs, c'est un peu drôle de parler comme ça, sélectionnent comme information qu'ils reçoivent, et à quoi est-ce qu'ils mettent les haut-parleurs ? C'est pas du tout pour accuser quelqu'un, c'est une question que je me pose moi, du fonctionnement des sociétés. Le fonctionnement des sociétés pour les individus, c'est un rouleau compresseur, quoi. Ici, c'est terrible, mais je veux dire, pour la parole, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est le CRIF ? Et pourquoi pourquoi on n'entend que la parole des dirigeants du CRIF et même pas des différentes associations qui sont à l'intérieur du CRIF ? Comment ça se fait qu'avec les manifestations qu'il y a eu à Paris, où l'UJFP quand même, ils sont assez nombreux, ils ont des grandes banderoles. Comment ça se fait qu'on n'entende jamais parler aux informations ? Il y a des choses qui sont un peu, que chacun, on doit se poser la question. C'est-à-dire que le CRIF, on ne sait pas vraiment le nombre, mais donc c'est une institution, c'est un groupe d'associations qui... de gens qui vivent leur judaïté au sein d'organismes divers et qui donc votent pour des gens qui les représentent. L'ensemble des personnes qui votent dans toutes ces associations, on ne sait pas combien il faut, on sait qu'ils font moins de la moitié des Juifs de France et que peut-être ils font peut-être 10%, on n'en sait rien quoi. Mais je veux dire, on veut avoir une représentation des Juifs et on prend celle-là parce qu'elle est institutionnalisée. Oui. Oui, vous parliez aussi des Juifs des États-Unis qui ne disaient pas en notre nom. Mais les Juifs en Israël, moi, je pense que c'est comme n'importe quelle population. Vous savez, quand on est dans un état de tension, on se met tous derrière, on pense tous pareil, sauf quelques-uns. Et oui, mais bien sûr, madame. Bien sûr, madame, mais il faut se poser la question de comment ça fonctionne une société. Et voilà, et donc la réponse, une partie de la réponse, c'est dans le film. Et quand les Israéliens savent, consciemment ou inconsciemment, qu'ils sont assis sur des villages rasés, et ça, c'est extrêmement difficile, et les gens n'arrivent pas à se dire, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, les gens fabriquent de la haine parce qu'ils sont assis sur de la merde. Mais ça, c'est les êtres humains, c'est comme ça. Et moi, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, les Israéliens sont tous des affreux, sûrement, j'en sais rien, mais que les gens à l'extérieur d'Israël ne relayent pas ceux qui en Israël parlent autrement, ça, je pense que c'est aussi très grave. Simple, après, sur la question du nombre, les années passant, les dirigeants n'ayant aucune proposition à faire, d'abord les gens se lassent, les gens se démobilisent de plus en plus, et voilà. Hein. Je me tais.
Oui, je vais essayer d'apporter quelques précisions par rapport à la question posée, c'est-à-dire de la différence entre 2006, la guerre contre le Liban, et ce qui se passe actuellement. Je pense que la différence par rapport à 2006, c'est que l'opinion au niveau d'Israël, en Israël, est beaucoup plus bipolarisée. En d'autres termes, il est très clair que le soutien à ce qui se passe contre Gaza est certainement plus fort que ce qu'il était dans l'action contre le Liban. Mais par contre, alors que pendant la guerre contre le Liban, les manifestations à Tel Aviv ont été insignifiantes, on a eu des manifestations contre les attaques sur Gaza qui ont rassemblé entre 5 000 et 10 000 personnes. Et attention, ces 5 000 et 10 000 personnes, si on les compare avec les grandes foules de la place Rabin, comme on a l'habitude de dire, ce n'est pas beaucoup. Mais si on voit que ce sont des manifestations militantes qui sont des manifestations complètement ciblées au niveau politique, il faut quand même rappeler qu'aucun parti politique israélien n'a dénoncé ce qui se passe contre Gaza, y compris le parti dit de gauche Meretz. Bien, on prend ça en considération, on s'aperçoit que cette frange, disons, activiste, celle qu'on voit dans le film, mais bien au-delà de ça, elle reprend à l'heure actuelle de l'importance et elle se manifeste, au moins dans une ville comme Tel Aviv, beaucoup plus fort. Alors maintenant, pourquoi cette bipolarisation ? Et moi, je pense qu'il y a des précisions à donner. Au fin décembre, début janvier, on a commencé par dire que la raison de l'attaque sur la bande de Gaza était due au fait que le Hamas n'avait pas renouvelé la trêve. Bon, c'était un énorme mensonge, et puis de toute façon, il a été carrément démenti immédiatement par la presse israélienne elle-même, qui a expliqué que les préparatifs militaires remontaient au début de la trêve même, c'est-à-dire à juin dernier. Maintenant, avec les révélations qui passent dans cette même presse, on explique qu'en fait, les préparatifs militaires ne remontent pas à juin 2008, mais à mars 2008. Et puis en fait, si on regarde d'un petit peu plus près, et qu'on pose la question aux personnes informées comme Michel Warchavski, ou que l'on consulte les sites sur les préparatifs militaires eux-mêmes, on s'aperçoit que, en fait, les préparatifs remontent au lendemain même de la guerre contre le Liban, qui a été un échec du point de vue israélien. Et ceci a entraîné toute une série de différences, et en particulier la préparation psychologique de l'opinion en Israël. Et on n'a absolument aucune idée de ce que ça représente. Je traduisais hier un texte là-dessus. Je veux dire, il y a un bourrage de crâne absolument extraordinaire. On explique par exemple que l'armée israélienne est très humaine. La preuve, c'est qu'elle téléphone aux gens dans leur maison pour leur expliquer que la maison va être détruite dans 10 minutes, donc ils ont le temps de sortir. Donc ça veut dire qu'effectivement, on leur fait pas de mal. Hein ? Sachez qu'à l'heure actuelle, 15% des habitations de la bande de Gaza sont endommagées ou détruites au jour d'aujourd'hui. Bon, et toute la propagande fonctionne de ce genre-là, dans ce sens-là, à expliquer aux Israéliens que finalement ils sont bons parce qu'ils pourraient être moins bons, et aux Palestiniens, attention, nous pourrions faire pire que ce que nous faisons. D'accord ? Donc, rendez-vous. Alors, j'ai donné cet exemple-là, mais enfin, bon, tout fonctionne de cette façon-là. Il faut aussi savoir qu'à l'heure actuelle, contrairement aux traditions israéliennes, qui sont quand même d'une certaine liberté de la presse et liberté de l'information, on est en train, à l'heure actuelle, d'assister un véritable verrouillage de l'information. D'ailleurs, les journalistes internationaux qui vont là-bas s'en plaignent, hein, et y compris des journalistes israéliens eux-mêmes commencent à constater qu'il y a une dérive de plus en plus vers le verrouillage de l'information. Je ne parle même pas des Palestiniens d'Israël qui sont traités comme une cinquième colonne. Ils ne vont pas avoir le droit de participer aux élections du 10 février. Donc vous voyez, Claire a utilisé l'expression « ils sont fous », il y a ce raidissement d'une puissance coloniale qui n'a pas de projet politique à long terme, si ce n'est d'avoir de plus en plus recours à la violence, et qui est obligé effectivement d'avoir les comportements que ont toutes les puissances coloniales dans ces situations-là. On a connu ça ailleurs.
Je veux juste rajouter qu'une manifestation de 5000 personnes là-bas, pour un pays de 6 millions d'habitants, c'est une manifestation de 50 000 personnes ici, quoi.
Oui, bonjour. Je ne connais pas bien la géographie, mais j'ai entendu à la radio que Tzerot était dans les frontières hors résolution 248, et que c'était donc pas Israël, mais que c'était une colonie israélienne. Et deuxième question, pourquoi une seule séance aujourd'hui pour l'année,
Par rapport à la séance, alors bon, vous précisez les choses, il y a des associations qui sont ici. Au niveau de la programmation, vous parliez ? Non, il n'y a pas une seule. Hein. Si on regarde le programme, Anne-Marie pourra plus vous renseigner peut-être là-dessus, mais il y a beaucoup de choses qui sont...
Non, c'est parce que c'est de la vidéo et que c'est compliqué au niveau technique en fait, de faire trop de séances. Et en plus, on tenait à faire des séances avec débat. Donc il y en aura d'autres. On va en faire... Là, pour le moment, il y a deux films qui passent à Toulouse... Mais on va reprendre en Akbar après. Et en plus, ça nous sert, nous, à faire la promotion du DVD. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un DVD qui existe, il faut se le procurer et il faut le faire circuler. Mais on refera régulièrement d'autres projections, ainsi que des projections d'autres films.
Pour répondre à votre première question, si vous parlez du plan de partage de l'ONU, la résolution 181, le plan de partage qui faisait un découpage, bon, il faut bien le dire, complètement absurde, prévoyait une zone palestinienne au bord de la Méditerranée au sud, donc de la Palestine, qui était beaucoup plus vaste que ce qui est resté la bande de Gaza, c'est-à-dire là où les réfugiés ont pu se venir. Donc effectivement, Sderot était un territoire prévu pour être palestinien, vous avez raison.
Oui, bonjour. Contrairement à ce que vous dites, Claire, je crois que les Israéliens ne sont pas du tout fous, mais que depuis une centaine d'années, ils appliquent une politique qui est clairement expliquée dans le film, qu'il s'agit d'oppression, ensuite qui favorise la révolte et la répression derrière. Et c'est cette stratégie qui est appliquée depuis très longtemps et qui veut, en fait, qui vise à étendre les territoires occupés par les Israéliens et en fait à faire fuir les Palestiniens de ce pays-là de manière à asseoir les Israéliens sur toute la Palestine. Je crois qu'à terme, c'est ce qu'ils visent, parce que si ce n'est pas eux qui règnent, ce seront les Palestiniens et ce seront eux qui disparaîtront. Donc c'est un peu leur survie. Je pense que c'est ça qui est en jeu aussi dans la droite et à l'extrême droite des Israéliens. Merci.
Moi, je pense que ce n'est pas leur survie. Je pense qu'ils vont droit au suicide, là. Je dis qu'ils sont fous parce que... Parce que ce qu'ils ont fait à Gaza, c'est sûr que ça va pas dans leur sens, ça va pas dans le sens de leur sécurité. Enfin, je sais pas, moi, j'entends des jeunes Israéliens qui disent, on m'explique qu'on construit un mur en Cisjordanie pour me protéger, on construit ce mur sur le terrain en volant des terrains à des gens qui forcément ne vont faire que me haïr. Ces gens ne travaillent. Je veux dire que on peut réfléchir, même quand on veut gagner du territoire, on peut réfléchir une seconde, quoi. Alors, bien sûr qu'il y en a qui veulent que gagner du territoire, mais ils sont pas tous comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, c'est leur survie qui est en jeu. Mais non. Je veux dire qu'il faut... Il y a une autre... Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi un autre problème pour l'État israélien. C'est que faire fonctionner un État, c'est quand même pas... Il y a des grands signes. Oui. Oui, juste de finir, faire fonctionner un État, ça s'invente pas du jour au lendemain. Or, les dirigeants du mouvement sioniste, ils ont aucune tradition de faire fonctionner des États. Moi, je pense qu'ils font n'importe quoi.
Bonjour. Alors, pour moi, une question qui me préoccupe depuis très très longtemps, c'est peut-être plutôt philosophique, mais cette notion de terre promise, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Au niveau rationnel, quoi. La terre promise, pour qui, pourquoi? Parce que finalement, peut-être la terre promise, elle est partout et elle est pour tout le monde. On pourrait aussi bien se dire, nous, enfin ceux qui sont peut-être d'obédience chrétienne ou autre, ça peut être aussi notre terre à nous. Et si du jour au lendemain, tous ceux qui sont chrétiens, par leur conviction ou par leur culture, voudraient peut-être se retrouver aussi sur cette terre. Donc ça ferait beaucoup de monde. Alors on va y aller tous et on va tous se taper sur la gueule et puis on verra bien qui sera le vainqueur, quoi.
Bien sûr.
Donc s'il y a une réponse, tant mieux. Mais là, moi, j'en vois pas. Mais il vaudrait mieux que chacun revienne sagement de là où il vient et puis qu'il soit bien dans sa propre peau, dans sa propre religion, dans sa propre croyance, et que chacun fiche la paix à son voisin, quoi. En gros.
Ouais, ça ce serait bien que chacun fiche la paix à son voisin, ouais. Alors la terre promise, ça n'a de sens que à des gens qui sont croyants et qui croient que, alors que non seulement qu'ils sont croyants, mais qui croient que le terme de terre promise, ça veut dire il faut y aller. À ce que eux ils pensent être la terre promise. Alors moi je vous parlais beaucoup de religion, mais je pense que la base c'est pas la religion le problème. Le départ du mouvement sioniste c'est pas un mouvement religieux. Le départ du mouvement sioniste c'est un mouvement nationaliste, laïque, européen, qui a dit nous aussi on veut comme les autres nationalismes avoir un pays. Et pour fabriquer un nationalisme, ça c'est vrai pour tous les nationalismes, il faut une mythologie. Et ces gens qui ne croyaient plus en Dieu, ils ont dit, ben voilà, la Bible c'est notre cadastre. Et donc nous, on va faire ça. Donc c'est ça ce que ça veut dire la terre promise pour eux. Alors ensuite, bien sûr que alors après, je veux dire qu'on montre ici, et avec juste raison, des gens très religieux qui sont sûrs que Dieu leur a donné la terre. Je pense que c'est assez minoritaire en Israël, et que si ces gens peuvent installer des colonies en Cisjordanie, c'est bien parce que le gouvernement les laisse s'installer là. Hein, quand on peut chasser des Palestiniens, on peut aussi chasser des Juifs qui sont complètement fous et qui disent « cette terre est à moi ». Donc je pense que là, les politiques, ils ont choisi leur camp. Et bien sûr que les chrétiens aussi, ils pourraient vouloir aller s'installer. Et un des plus forts soutiens du sionisme, c'est tout de même le mouvement millénariste évangélique des États-Unis, qui veulent effectivement, pour un deuxième avènement du Christ, que tous les Juifs aillent en terre d'Israël pour se faire convertir, etc. Et ce sont des gens qui financent les colonies de Cisjordanie aussi. Donc oui, le concept de terre promise, ça ne vaut que pour ceux qui y croient. Je veux dire que vous me posez cette question à moi. Je ne suis pas sioniste, ma famille n'est pas sioniste. Je pense que c'est une aberration complète.
Je voulais reprendre ce que disait Claire au sujet des résistances, même si elles sont faibles, même si elles ne se voient pas, et peut-être à plus forte raison. C'est vraiment très, très important qu'on relaie ce qui se passe aussi bien en France et en Israël ou ailleurs, d'un mouvement d'autres juifs qui soutiennent, qui s'opposent à la politique israélienne. Et je voudrais donc aussi relayer ça par deux livres que j'ai lus de Michel Warshavski. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il a écrit un premier livre, enfin j'en ai lu d'autres, mais le premier livre que j'ai lu, c'était « Sur la frontière ». Je ne sais plus exactement à quelle époque, je crois que c'était en 2000 ou quelque chose. 2001, oui. Et c'était un livre qui était encore plein d'espoir, où il expliquait comment il fallait aller vers un seul État et où les deux peuples pouvaient vivre ensemble comme partout ailleurs, des pays, enfin des gens de religions différentes ou vivaient ensemble. Enfin, comme c'était possible. Et puis, quelques années après, il a écrit un livre qui s'appelle « À tombeau ouvert », qui est tout petit et qui est vraiment, qui m'a effrayée dans la mesure où on peut voir la distance qu'il y a entre ce temps de 2001 où il y avait encore quelque chose qui lui paraissait possible, alors qu'en 2001, il dit « Oui, ils sont fous, à tombeau ouvert, ils vont vers leur propre destruction ». Et je crois que c'est un livre qui est vraiment intéressant à lire, à faire découvrir, comme ces films et tout ça, parce que beaucoup de gens ne savent, n'y comprennent rien à cause de la désinformation qui se passe. Puis il y a aussi autre chose, c'est qu'on dit « Mais pourquoi on soutient, on défend la Palestine, pourquoi uniquement la Palestine, comme s'il n'y avait que ce conflit ?» Il y a d'autres conflits. Il y a en Tchétchénie, il y a au Darfour, il y a partout. C'est des horreurs absolument semblables, sauf que là, se jouent au cœur du Moyen-Orient des projets autres que celui d'Israël. Il y a la mainmise des États-Unis, il y a il y a l'énergie, il y a le choc des civilisations qui joue à plein ici et qu'on fait fonctionner avec toutes ces idéologies.
Je voudrais faire juste une ponctuation. Comme disait Claire tout à l'heure, je suis extrêmement choquée, bien que connaissant parfaitement la situation. Mais en revisitant les méthodes d'oppression et de massacre, je me suis retrouvée un petit peu renvoyée à l'Algérie que j'ai vécue. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur la question de la folie, dans un pays, on n'a pas besoin d'être très nombreux pour détruire. Il suffit d'une infime proportion de la population et de personnes qui ont le pouvoir pour détruire. Donc, en Israël, on pourrait avoir une opposition aussi forte que possible. Je pense que les méthodes resteront les mêmes et le projet sioniste de départ n'est pas un mythe en l'air. C'est un mythe fondateur d'Israël, c'était le grand Israël. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre n'est pas un vain mot, ce sont les paroles des premiers sionistes. Donc toutes les méthodes les plus terribles, les plus terrifiantes, ont été utilisées dès le départ. On en a eu un aperçu par le film, mais il y en a d'autres, tels que par exemple l'épandage de pesticides sur toute la terre d'Israël, de Palestine, pour faire non seulement faire fuir les Palestiniens, mais même les empoisonner. C'est le cas à Gaza avec tout le problème de l'eau dont on a pris connaissance, en tout cas en ce qui me concerne, très récemment, où les colonies israéliennes, l'épuration de l'eau est de l'ordre de 6%. 94% de l'eau, des eaux usées et des détritus, aussi bien que des... de la merde, on va dire comme ça, oui, la merde, eh bien, déboule dans les terres palestiniennes et infiltre toutes les nappes phréatiques. Je dis ça en plus de ce que l'on voit des massacres. Il y a véritablement une politique de génocide. Oui, merci pour eux. Donc, c'est un génocide qui ne dit pas son nom. Autrement dit, c'est fou, vis-à-vis de ces fous. Moi, je ne m'inquiète pas du suicide d'Israël. Je m'inquiète de l'état de la Palestine actuellement. Il y a des cartes sur Internet qui montrent la carte de la Palestine en 1948 et la carte de la Palestine aujourd'hui. C'est strictement effrayant. Il reste 18%, voire moins, de la Palestine historique. qui sont déchiquetés en petits bouts, éparpillés. Que reste-t-il des Palestiniens? Que va-t-il rester des Palestiniens d'ici quelques années si la communauté internationale ne réagit pas et justement ne réagit pas à ceux assez fous qui sont en train peut-être de détruire la région et voir aussi, puisque nous avons la France avec Israël, nous avons des traités d'association qui sont en train de se mettre en place. Le cheval de Troie est en Méditerranée de nouveau. Et je crois que la question que je me pose aujourd'hui, c'est nous, en France, pour le moment relativement libre, que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour justement que ces fous s'arrêtent comme on a arrêté Hitler? Pourquoi ne pouvons-nous pas, ne pouvons-nous pas arrêter ce génocide qui se passe sous nos yeux exactement de la même façon que pour la guerre mondiale, le génocide nazi? Eh bien, que faisons-nous? Parce que nous sommes quelques-uns ici, que représentons-nous en France et comment nous pourrions un petit peu mobiliser l'opinion française? Et voilà, j'arrête.
Oui. Ben, merci. Merci Yamina. Je pense que malheureusement, nous n'avons pas ici dans cette salle la réponse aux questions que tu viens de poser, qui nous dépasse, mais on peut quand même faire un certain nombre de choses. Et en particulier, j'en profite pour faire cette annonce qu'un certain nombre d'entre vous savent déjà. Nous avons au niveau d'un collectif informel qui s'est créé, je pense que peut-être Sivan aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, s'il le souhaite. Donc collectif qui s'appelle Jaffa Toulouse. Nous avons décidé de réagir à l'annonce d'un séminaire organisé par la Chambre de commerce franco-israélienne et destiné à faire exactement l'inverse de ce que tu dis, c'est-à-dire destiné en fait à renforcer encore plus les liens entre entreprises et institutions françaises et israéliennes. Et tout à fait. Et donc ce séminaire va se tenir à Toulouse demain et après-demain. Et donc nous avons appelé à un rassemblement sous forme d'un sit-in pacifique qui sera demain matin. Pour les gens qui connaissent Place Rouex, c'est juste le début de l'avenue d'Alsace-Lorraine, à 8h30. Bon, donc voilà, j'espère que des personnes viendront. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. Dans les différentes manifestations, on a beaucoup entendu et beaucoup vu, et moi, les discussions que j'ai eues avec les gens ont dit « mais il faudrait que ce pays soit boycotté ». Alors c'est quelque chose qu'on a entendu et à de multiples reprises, mais qui malheureusement au niveau d'une véritable organisation, quelque chose ne s'est jamais traduit dans les faits par quelque chose de construit comme ça existe dans les pays anglo-saxons. C'est pas du tout négligeable en Irlande, en Angleterre, en Écosse, pour ne citer que, et dans les pays scandinaves. À l'heure actuelle, les Israéliens se plaignent que les exportations de produits agricoles sont en chute libre dans les pays scandinaves. Vous pouvez consulter le site d'Israël Valley, par exemple, pour vérifier ça. Et je me dis, et on est nombreux à se dire, qu'il serait temps qu'effectivement, en France, on prenne cette question-là très au sérieux et qu'on construise quelque chose qui est du même ordre d'une réponse citoyenne, comme il y en a une à l'époque de la protestation contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et ce qui se passe en Israël à l'heure actuelle, non seulement mérite la comparaison avec l'apartheid en Afrique du Sud, mais même à beaucoup d'égards peut être considéré comme pire. Voilà.
Voilà. Moi, je suis encore très ému par le film. Donc, j'ai quelques difficultés à m'exprimer. Enfin, j'aurai quelques difficultés à m'exprimer. Je voulais simplement vous dire et relayer ici l'indignation de Emmanuel Todd, cet historien, sur les ondes d'une radio publique, en réponse à Yvan Levaille qui faisait un commentaire plus qu'élogieux du reportage à venir de Bernard-Henri Lévy, installé dans un tank israélien et constatant qu'après tout les dégâts n'étaient pas si importants que cela. Ce que Emmanuel Todd a dit ce matin, pouffant de honte et d'indignation, c'était que, en fait, les fous, ils ne sont pas en Israël, c'est bien à l'extérieur de l'Israël, parce que le problème actuellement palestinien au Moyen-Orient, c'est un problème que nous avons créé, je dis nous, les pays occidentaux, la France inclus. C'est un problème que nous avons créé et que nous ne souhaitons pas résoudre. Parce que la seule manière de résoudre ce problème, et la honte, c'est qu'on laisse les Israéliens s'enferrer de plus en plus dans une histoire qu'ils ne peuvent pas résoudre. Voilà ce que j'avais à dire.
Oui, bonjour. Donc en fait, moi j'avais deux questions. Donc la toute première s'agit, enfin, surtout des armes. Actuellement, on voit que donc Israël et les États-Unis vont se mettre d'accord afin de stopper les armes au niveau de l'approvisionnement de Gaza. Et de l'autre côté, si on s'informe bien, on voit qu'il y a 2 fois 3 000 tonnes qui ont été apportées à Israël courant décembre et actuellement courant janvier. Mais cela, personne n'en parle. Et je voudrais savoir pourquoi ce blocage informationnel qui se passe actuellement se fait. Et pourquoi ne pas dénoncer au niveau de cela un armement, on va dire, surdimensionné de l'État d'Israël? Et deuxièmement, je voulais parler, donc c'est une autre question. C'était pour savoir si, donc là c'est une question que je me pose moi-même et je pense que beaucoup se posent, si le peuple palestinien ne sert pas d'exutoire actuellement à l'Holocauste qui a été fait en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui actuellement se fait depuis 40 ans. Voilà.
Bon, je vais juste faire une petite réponse. Est-ce que les fous sont à l'extérieur? Oui, moi, c'est ce que je pense. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a aussi les fous à l'extérieur et en tout cas, les gens à l'extérieur, ils devraient pouvoir faire quelque chose encore plus. Parce que vous dites que le départ du sionisme, c'est l'idée une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Oui, d'accord, mais enfin, il y en avait quand même des sionistes qui savaient que c'était pas vrai déjà. Et ensuite, c'est pas parce que il y a cette idée-là que forcément, il faut laisser tout faire. Enfin, c'est pas ce que vous avez dit, mais je veux dire que même après cette idée-là, une société, ça peut bouger. Et ce que vous disiez là sur l'intervention de je sais plus qui à propos de BHL, là, moi j'ai entendu l'autre jour Max Gallo qui disait quand même à ce moment-là, il y avait 800 morts en Palestine et donc à Gaza et donc oui, bien sûr, c'est beaucoup, mais enfin quand même dans une population aussi peuplée, finalement c'est pas tant que ça. Enfin, que des gens puissent dire des choses pareilles, je trouve ça. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé, on parle des les juifs ou des Israéliens juifs qui soutiennent la Palestine. Je pense que ça, c'est très important de les faire entendre, parce que ce sont des gens qui permettent de penser. C'est-à-dire que même à Sderot, il y a des gens qui disent. Nous, les Kassam sur la tête, ça nous convient pas, mais déclarer la guerre et rentrer en Gaza, à Gaza, c'est une catastrophe pour tout le monde, et ils demandent qu'on arrête la guerre. C'est-à-dire que même des gens en Israël sont capables de se dire ça. Et quand on pense à ce que des gens en France sont capables de dire je veux dire, il est bête, je sais pas qu'est-ce qu'il est, ce type, mais enfin, c'est les fous sont vraiment dehors, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on parle pas des armes, qui vont à Israël? Mais l'État d'Israël, c'est un État comme le nôtre. En face, c'est des barbares. C'est quand même ce qu'on pense, au fond. Je veux dire que ce qui sous-tend les réactions occidentales, c'est ça, quoi. Hein. Nous, on est des civilisés, nous, on est des je sais pas quoi, et les autres, il faut pas qu'ils aient des armes parce que je sais pas, ils sont mineurs ou je sais pas quoi. Comme si les dirigeants israéliens étaient capables de penser, quoi. Mais ça, c'est voilà, ce sont des gens comme nous, alors ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Et puis, est-ce que la Palestine sert d'exutoire au génocide nazi? Moi, je pense que le génocide nazi est quelque chose de bien commode hein, pour les Européens. Alors, et surtout, bien commode pour cacher ce qu'il y a eu avant. Parce que le fait que, si vous voulez, je vais essayer de faire très court, mais le judaïsme européen au début du XXe siècle, le sionisme était très minoritaire, comme les groupes juifs autonomistes qui disaient « Nous sommes européens, nous voulons rester en Europe, nous avons une langue, le yiddish, et nous voudrions la garder », comme les mouvements révolutionnaires juifs qui disaient « Nous sommes européens, nous voulons rester en Europe et nous voulons plus de justice sociale ». Les seuls mouvements qui ont été soutenus parmi tous les mouvements juifs, ce sont les mouvements sionistes. Les seuls mouvements qui ont été soutenus par les puissances extérieures. Alors ça, c'est un problème. Dans les années 20, en Pologne, la Pologne qui avait la plus grosse population juive d'Europe, on disait, est-ce que les gens qui ont les pays qui ont des colonies, comme la France, ils pourraient pas nous prêter des colonies parce que nous, les juifs, on en a trop, il faut qu'on les envoie ailleurs. Donc ça, le problème d'avoir une altérité, une minorité au sein d'une majorité, c'est insupportable. En tout cas, en Europe, c'était insupportable. Donc c'est ça le problème. Après, les nazis, ils ont fini par dire « Bon, écoutez, cette question, on n'arrive pas à la résoudre, donc nous, on la résout. » Mais les gens qui sont sortis des camps, les gens qui étaient rescapés des camps, les Européens, ils en voulaient toujours pas. Et ceux qui ont essayé de rester en Europe, Madame disait « Chacun a qu'à revenir là d'où il vient. » Mais où est-ce que vous voulez qu'ils reviennent? L'Europe n'en veut pas. Donc c'est bien sûr que c'est un exutoire au génocide nazi, mais je pense que c'est un exutoire encore plus loin. Et quand on entend même des gens à la radio qui font parler des Palestiniens, tout ça, je pense à Marc Kravetz par exemple, qui est quand même quelqu'un qui fait un peu entendre les voix palestiniennes, ce qui sous-tend leur discours, c'est toujours, enfin quand même, en 1948, les Palestiniens n'ont pas accepté le partage du territoire. Comme s'il y avait quelque part dans le monde des gens qui disaient, eh bien, écoutez, nous on habite ici, mais bien sûr on va partager notre territoire et venez donc. Comme si l'Europe, alors que les Juifs vivaient là depuis des centaines d'années, n'avait pas dit les Juifs dehors. Donc c'est ça l'idée qu'on a en Occident. C'est bien sûr les Palestiniens auraient bien pu partager leurs terres. Nous, on se pose pas de questions. Et bien sûr que c'est normal que l'État d'Israël, qui est un État souverain, machin, digne, ait des armes. Et bien sûr que c'est pas normal que les autres. Mais ça, c'est la pensée humaine.
Je voudrais juste apporter un tout petit complément par rapport à ce que vient de dire Claire. Je pense qu'il est très dangereux et, à mon avis, complètement trompeur de vouloir ramener les événements en Palestine à une comparaison par rapport au génocide des Juifs, quels que soient les éléments que l'on puisse avancer dans ce sens-là ou contre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, c'est une façon de mettre à la trappe, d'ignorer ce qui est le fondement de la politique de l'Occident depuis très très longtemps, c'est-à-dire en fait la pensée coloniale, qui s'est traduite par des massacres, en commençant en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie, dans toute l'Afrique. Et là, je viens de relire ces derniers jours un livre qui s'appelle « Exterminer toutes ces brutes » que je vous recommande vivement d'acheter et de lire. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui le connaissent. Qui montre à quel point la pensée politique des pays occidentaux, donc l'Angleterre à l'époque de l'Empire, etc., etc., ont été façonnés à l'idée que le colonisé ou le futur colonisé ne vaut pas le centième du colonisateur, ni au niveau de sa vie, ni de sa moralité, ni de quoi que ce soit. Et donc, on est toujours sur le même schéma. Et puis, les personnes qui ont regardé d'un tout petit peu plus près, et ça, c'est quelque chose qui est peu connu en France, parce que ça concerne essentiellement les pays de l'Est européen, ceux qui ont regardé de près un peu quelle était la pensée nazie à la dernière guerre mondiale, ont mis en évidence le fait qu'il y avait une dimension coloniale extraordinairement importante vis-à-vis de tout ce qui s'appelait les terres de l'Est. Et donc le génocide a été aussi, il y avait effectivement un anti-judaïsme, antisémitisme, tout ce que vous voulez, énorme, mais ça a été aussi une partie d'une opération coloniale de très grande ampleur, qui n'a pas duré longtemps, bien sûr, puisque heureusement l'Allemagne nazie a été vaincue, Mais moi, je me souviens, je suis d'un certain âge, donc je me souviens l'époque où je lisais dans le grenier de mes parents les magazines dans genre Victoria, qui étaient les magazines de propagande allemande de la Deuxième Guerre mondiale, et vous trouviez toutes ces informations-là sur l'établissement de nouvelles colonies allemandes en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc., etc. Donc il faut voir que en réalité on est dans la poursuite de la même histoire à l'heure actuelle, à mon sens.
Bon, moi je voudrais revenir sur la folie apparente. Donc effectivement, ça paraît fou ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire d'enfermer 1,5 million de personnes dans une bande de 30 km sur 10. Et une fois qu'ils sont enfermés, qu'il n'y a pas d'économie possible, pas d'agriculture possible, de les bombarder. Ça paraît fou. Mais je pense pas que ce soit... je pense que c'est dans la continuité de la politique choisie par les dirigeants de l'État israélien depuis longtemps. Alors, cette politique, on l'a vu déjà apparaître, déjà dès 1956, à l'époque où c'était encore l'Angleterre et la France qui décidaient dans la région, quand Nasser nationalise le canal de Suez, la France et l'Angleterre envoient un corps expéditionnaire en Égypte, et déjà, Israël est là, au service, pour jouer le gendarme. Et cette politique du gendarme des grandes puissances, elle n'a pas changé depuis 1956. Et aujourd'hui... On peut voir comme geste politique de l'intervention de à Gaza ce geste de dire on est le bras armé de la puissance impérialiste américaine, on est au service de l'impérialisme pour régler les problèmes qui peuvent apparaître dans la région. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, et bien voilà, on fait acte de candidature pour comme gendarme armé dans la région. Et je pense que c'est ça le fond politique de cette intervention. C'est pas du tout fou. C'est les dirigeants d'un État qui sont prêts à faire payer à la population palestinienne et à la population israélienne leur politique. Et c'est cette politique-là qu'il faut contester. Il faut qu'il y ait des gens qui contestent cette politique-là dans les Palestiniens, et il faut qu'il y ait des gens qui contestent cette politique-là en Israël. Et pour ça, il faudra effectivement passer par-dessus les nationalismes, qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient israéliens, et passer par-dessus les clivages religieux qui ne peuvent que conduire à des affrontements, à un développement des développements racistes et empêcher toute solution dans la région. Il y a une grosse responsabilité des puissances occidentales et de la puissance la plus forte des Américains dans la région. L'État israélien n'existerait pas et ne pourrait pas faire ce qu'il fait s'il n'était pas financé et armé par les États-Unis.
Non, je voudrais juste dire quelque chose qui n'a peut-être pas énormément d'importance, mais qui, moi, me... dans les discussions que je peux avoir avec tout un chacun au quotidien. Et quand on m'a dit « J'espère que tu n'es pas allé à la manifestation pour soutenir la Palestine », on m'a dit « La Palestine, tout de même ». Mais chaque fois, quand j'essaye de parler comme le monsieur, bien dire « C'est pas les Juifs, les Arabes, ce sont lutter contre les opprimés, les colonisés, etc. », on me dit « Oui, mais Jacqueline, tu ne comprends pas, puisque je m'appelle Jacqueline, tu ne comprends pas, c'est contre le Hamas. Et quand c'était au Liban, c'est contre le Hezbollah. Ce n'est pas du tout contre les Palestiniens. Et les seuls vrais démocrates là-dedans, ce sont les Israéliens. Alors quand j'essaye de dire « mais je manifeste pour... » les opprimer contre cette guerre-là et qui n'arrête pas de ne pas arrêter, voilà, avec des Israéliens, on me dit « Jacqueline, tu te fais avoir ». C'est le Hamas, c'est le Hezbollah. Voilà. Alors évidemment, je continue à argumenter, mais je voulais juste signaler ça. Peut-être ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour moi, ça me paraît fondamental d'une certaine manière.
On commente beaucoup un peu l'histoire avec des points de vue différents. Moi, je serais plutôt avec une perspective d'action, c'est-à-dire qu'on a du mal à mobiliser dans les manifestations, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je ne sais pas si ça peut donner des éléments de réponse à ta demande. On parle de là-bas. Il y a, parlons d'ici, tout à l'heure Jean-Pierre parlait de la mobilisation demain pour s'opposer au colloque de la Chambre de commerce franco-israélienne. Il parlait aussi de ce collectif qui s'est créé, qui s'appelle Jaffa Toulouse, pour dénoncer le jumelage entre Toulouse et Tel Aviv, capitale d'Israël, depuis 1962. En oubliant complètement le fait que Tel Aviv est construit sur les ruines du village palestinien, et surtout que Tel Aviv c'est aussi Jaffa, et Jaffa c'est les derniers Palestiniens qui restent encore dans cette partie-là, au niveau de Tel Aviv, et qui sont expulsés massivement. C'est cette fameuse cinquième colonne dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, et qu'on met sous pression en Israël. Alors je dis ça parce que agir par rapport à là-bas, c'est aussi un moment se questionner vraiment sur ici. Par rapport au colloque de demain, on a reçu un texte, ce collectif Jaffa Toulouse qui a appelé au rassemblement contre le colloque de demain, on a reçu un texte qui me semble très très riche, d'un collectif qui s'appelle Pièces et Main d'œuvre, qui agit à Grenoble, qui réfléchit sur qui analyse ce qui se passe au niveau des nanotechnologies, et qui sont au service effectivement de l'armement de haute technologie qu'utilisent les Israéliens, que les États-Unis leur vendent. Cette technologie, elle se construit entre autres à Toulouse. Les nanotechnologies, c'est la RFID qui équipe maintenant la médiathèque Cabanis à Toulouse. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais il y a un moment, il faut pas se leurrer. C'est-à-dire que on peut parler de là-bas, et c'est important de parler de là-bas et de réfléchir comme on fait là, d'essayer d'aller au-delà de la simplicité qu'on nous impose ou d'une trop grande complicité qu'on nous impose aussi pour dire c'est trop compliqué, vous pouvez pas comprendre, ou pour nous dire, et donc ou nous dire l'inverse, c'est simple, il y a le bien et le mal, prenez le bien. Donc c'est important, je pense, d'avoir cette réflexion sur le là-bas et ce lien de fond anthropologique aussi sur ce que parlait Claire sur la problématique de ce qui se passe de ce qui se passe là-bas et dans ce qu'on entretient comme relation avec ce qui se passe là-bas. Mais le concret, enfin, cet aspect des choses, le ici et maintenant à Toulouse, là je parle de Toulouse, je veux dire, c'est proche de nous, hein, enfin, on est, je pense qu'il est important, les emplois dans les nanotechnologies à Toulouse, c'est les emplois de nous. Enfin, voilà. Alors, moi je pense que cet aspect-là, il est aussi important. C'est-à-dire que sur le qu'est-ce qu'on peut faire, il y a un moment, c'est se questionner sur qu'est-ce que concrètement parlant ça implique dans notre quotidien aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un aspect, je pense, des choses qui est parce que ça oblige à nous interpeller nous aussi directement dans notre vie quotidienne.
On va peut-être conclure le débat là parce que ça commence à tout le monde commence à partir. Un truc qui nous semble fondamental, nous, justement, par rapport à ce que vous dites, c'est de faire le plus possible d'informations. Donc, on va continuer dans les mois à venir à faire régulièrement des projections de films avec des débats. C'est très important. On va essayer de relayer dans la Gazette les coordonnées des sites des diverses associations. Vous pouvez aller sur Internet, sur les sites des associations. Il y a régulièrement des informations nouvelles. Au niveau des bouquins, il y a plein de choses à lire. Il y a le bouquin de Shlomo Sands qui revient sur l'histoire, la façon dont le peuple juif, justement, s'est construit une identité. Revenez sur les émissions de Mermé. Il a fait une excellente émission avec Shlomo Sands, justement. Podcastez-le, écoutez-le. Et surtout, il y a en sortant des tables, des associations avec plein de bouquins. Il y a des remarquables bouquins, justement, de la revue de l'UJFP qui est extrêmement intéressante. Et surtout, faites circuler et ne cessez jamais de parler et de donner des coordonnées, de donner des titres de bouquins pour que les gens puissent s'informer parce qu'il y a une désinformation qui est énorme. Merci.